Bonsoir frères et sœurs. Nous allons continuer sur ce qu'on appelle la consommation du salut. Et c'est une longue série d'enseignements donc à propos des choses à venir qui nous attendent. Car Dieu nous a sauvés. Mais la manifestation de ce salut se fait en trois phases. La première phase, vous l'avez compris, c'est le fait que Dieu vienne habiter en vous, dans votre esprit. Sécurise votre éternité. Ayant pardonné vos péchés. Vous êtes juste devant Dieu, vous avez accès à sa présence. Donc vous pouvez dire, je suis sauvé. Maintenant, votre esprit étant recréé, votre âme, votre personnalité va devoir être transformée. Et ça, c'est la deuxième phase. Et une partie de cette deuxième phase se fait pendant que nous sommes éduqués dans la parole étant dans notre corps. Une deuxième partie pour parfaire cette connaissance de Dieu se fera quand nous irons au ciel. Il semblerait vraiment qu'au ciel nous serons éduqués dans la connaissance de Dieu qui nous manque pour parfaire la connaissance de Dieu. La troisième phase de la manifestation de notre salut, ce sera bien sûr la résurrection de notre corps. Parce que tant que vous êtes en deux dimensions, vous n'êtes plus un être humain tel que Dieu l'a prévu au départ. Donc quand nous partons au ciel, nous partons avec une dimension en moins, c'est-à-dire que notre corps reste ici. Pour un temps. Et nous avons vu pourquoi. Parce que notre corps étant mortel, notre corps ayant connu la corruption, il n'est pas possible que nous soyons dans la présence même de Dieu, dans la gloire de Dieu, avec notre corps. Donc on ne peut pas partir avec notre corps au ciel. On serait instantanément détruit. Alors, nous avons vu qu'est-ce qu'il y a au ciel. On a fait des comparaisons des visions de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. On a vu qu'au ciel, il y a le trône de Dieu. Et dans les visions de l'Ancien Testament, nous voyons bien un trône. Dieu qui est assis sur son trône. Ésaïe chapitre 6. Ézéchiel chapitre 1.
Ézéchiel
chapitre
1.
Et chapitre 10.
Donc
on voit qu'on parle du trône de Dieu. On a aussi quelques psaumes qui nous en parlent. Et la révélation de l'Ancien Testament sur Dieu. Dieu est assis sur son trône. Il y a des êtres, séraphins et chérubins, qui nous sont très bien décrits dans
Ézéchiel.
En tout cas pour les chérubins. Et les séraphins nous sont décrits un peu dans Ésaïe chapitre 6. Nous avons vu que autour du trône, il ne nous est rien décrit dans l'Ancien Testament. Ceux qui ont des visions de Dieu, ils voient simplement le trône, c'est tout. Et la gloire de Dieu autour de ce trône. C'est tout ce qu'ils voient. En comparant les visions du Nouveau Testament et particulièrement l'Apocalypse, là on voit qu'il y a quelque chose de très spécial. D'un seul coup, on a l'impression que Dieu donne une révélation sur qu'est-ce qu'il y a maintenant autour du trône. Et là, c'est merveilleux parce qu'on découvre tout un tas de choses. On voit que, par exemple, l'Apocalypse 4 nous décrit exactement la même chose que ce que Ézéchiel avait vu. Les chérubins sont décrits de la même façon. Quatre faces avec des ailes, etc. Des roues avec des yeux. J'ai pas dit des pneus, c'est lui qui a traduit ça comme ça.
C'est
j'ai
comme
dit
ça
des
qu'on traduit.
Roues.
Il n'y a pas d'autre traduction.
Mais un pneu, c'est une matière déjà en caoutchouc.
D'accord.
Oh, je suis sûr qu'à l'intérieur du pays, ils n'utilisent pas les pneus. Bon, donc, quand on compare ces visions, c'est très clair. Maintenant, quand on regarde l'Apocalypse, les visions que nous avons étudiées de Jean, on a clairement cette révélation du troisième ciel. On voit qu'il y a 24 trônes autour du trône de Dieu.
Bon,
on retrouve ce qu'on a dans l'Ancien Testament au niveau du trône, ça c'est clair. Mais en plus, il y a 24 trônes autour. On sait qu'il y a une ville qui s'appelle la Jérusalem céleste, avec 12 fondements et 12 portes. C'est le grand enseignement de Sanogo. Et en fait, on s'aperçoit qu'autour, il y a le paradis. On voit qu'il y a des sources. Il y a des arbres. Il y a des montagnes. Et surtout, il y a des gens. Et ça, c'est nouveau. Parce que rappelez-vous que le troisième ciel était complètement vide de qui que ce soit avant la résurrection de Jésus. Tous ceux qui mouraient et qui croyaient en Dieu avant la résurrection de Jésus, qui marchaient avec Dieu selon leur connaissance, allaient dans un endroit qui s'appelle le Saint-Abraham. Alors, je vous rappelle une chose aussi. En aucun cas, les esprits humains, c'est-à-dire quelqu'un qui va mourir, ne peut aller se promener ou faire quoi que ce soit. Dieu a toujours contrôlé et contrôlera toujours le royaume des morts, entre guillemets, royaume. Quelqu'un qui meurt obligatoirement, il est dans un endroit ou dans un autre. Donc tout ce qui est l'hyper mensonge de la sorcellerie est détruit à cause de ça. Aucun être humain peut venir vous apparaître, vous donner un message de la part de Dieu. Ça, c'est interroger les morts et c'est de la sorcellerie. Et Dieu a interdit ça toujours dans sa parole. Parce que quand la personne essaye d'interroger le mort, ce n'est pas le mort qui se manifeste, mais ce sont les esprits familiers, c'est-à-dire des mauvais esprits qui connaissaient la personne et qui se font passer pour ce mort. La grande tromperie de la sorcellerie, justement, c'est de faire croire que c'est le mort qui revient et qui vous donne un message. Non, les morts sont parfaitement contrôlés par Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était l'enfer pour les incrédules. Et le Saint Abraham, qui était un endroit d'attente pour ceux qui croyaient et qui attendaient, qui avaient cette espérance de voir un Messie un jour. Mais comme ils étaient venus avant le Messie, et
que
ce n'était pas de leur faute parce qu'on ne choisit pas le jour de notre naissance sur la terre, eh bien, Dieu les mettait dans un endroit qui s'appelle le Saint-Abraham,
que
Jésus est venu visiter après la résurrection, sa résurrection, et les a fait sortir. Et c'est là où des gens comme David, le prophète Samuel, etc., etc., Abraham, tout ça, hop, et tous les autres qui ont cru sont partis au
troisième
ciel. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre étude sur la consommation du salut, c'est-à-dire la manifestation totale de notre salut. Donc, nous avons essayé de comprendre ce qu'était le ciel. Et maintenant, il va falloir que vous découvriez une chose. Il y a des événements prophétiques, c'est-à-dire que Dieu a prédit, c'est-à-dire dit à l'avance, qui sont marqués dans la parole de Dieu, que ni ta foi ou ni que quoi que ce soit ou qui que ce soit ne pourra changer, mais Dieu les a prévus d'avance et nous allons les vivre.
Et
ces événements, nous devons les connaître.
Parce que
c'est des choses qui vont s'appliquer à nous obligatoirement. Ce sont des choses qu'on va subir ou dans lesquelles on va être aussi acteur dans certains cas.
Et
que la parole de Dieu nous révèle. Donc c'est bien de les savoir, de les connaître. De savoir ce que ça veut dire. Que va-t-il se passer? Comment ça va se passer? Parce que nous allons vivre ces choses. Et tous ensemble, on va vivre ces choses. Donc, le mieux, c'est de les connaître à l'avance. Et quand ça va se passer? Oui, je me souviens, on a eu des enseignements là-dessus. Absolument. Et on va vivre ces choses. Et il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Il faut que vous sachiez que le ciel n'est pas une finalité. Nous allons voir qu'il y a plein de choses qu'on va vivre. Mais que Dieu n'a jamais abandonné son plan originel. Quel était le plan originel de Dieu? Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, ça n'a pas été fait par hasard. Ça a été fait avec un but très spécifique. La terre était l'extension du ciel. C'était ça que Dieu voulait. En fait, Dieu voulait, et c'est ce qu'il a fait tout au début, que la terre soit l'extension de ce qui se passe au ciel. Mais avec les choses spirituelles et matérielles. Ça, ça a été toujours la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsqu'il a planté le jardin d'Éden, quand il a mis Adam et Ève, hommes et femmes créés à son image, son objectif, c'était que le paradis, le jardin d'Éden, soit strictement dirigé, gouverné d'une façon céleste. Au travers de qui? D'une créature créée à sa ressemblance. C'était ça que Dieu voulait.
Et
vous savez, quand Dieu a quelque chose,
s'il
a prévu quelque chose, vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. Ce plan-là, il est toujours d'actualité dans la tête de Dieu. Ce plan-là, il se réalisera totalement, complètement, selon ce que Dieu a prévu. Rien ne viendra changer ce plan. Le monde matériel ne va pas disparaître. Sinon, ça serait revenir en arrière pour Dieu. Parce que dans la création, Dieu a d'abord créé le monde spirituel, les anges, avec toute leur hiérarchie. Tout ce que la Bible peut nous décrire de spirituel. Et après, il a créé le matériel, le physique. Mais le spirituel a été créé en premier. Ensuite, le matériel a été créé en deuxième. Le matériel procède du spirituel. La Bible nous dit que ce qui est invisible était en premier. Et ce qui est visible est venu en deuxième. Donc ça, il faut le comprendre. Donc si Dieu disait, ben maintenant, ceux qui sont sauvés, hop, vous allez au ciel. Et puis, vous resterez là-haut. Et je vais détruire tout ça. Ça ne va plus jamais exister. Ça voudrait dire que Dieu reviendrait en arrière.
Tu
dirais, finalement, je me suis trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Il savait ce qu'il voulait faire. C'est que la terre soit une extension du ciel. Et Dieu n'a toujours pas changé d'avis. Dis à ton voisin, Dieu n'a toujours pas changé d'avis. Parce que ça va être le plan. Ça va être le plan qui va se dérouler devant nos yeux. Pas comme ça d'un seul coup. Mais c'est par étapes.
ariko intambwe inyuma y'iyindi.
D'abord Dieu a vu la misère de l'homme.
Ugambere Imana yarabonye ngene umuntu amerewe nabi.
Il a envoyé son fils.
Irungi ku mwana wayo w'ikinege.
Son fils Jésus c'est la solution pour l'homme.
Umwana wayo Yesu Kristo ni we nyishu.
Pour pouvoir à nouveau rentrer dans le plan originel de Dieu.
Kugira ngo umuntu wese ashobora gusubira kwinjira mu mugambi wa mbere w'Imana.
Vous ne pourrez rien comprendre sur les événements prophétiques des temps de la fin.
Ntanaki mushobora gutahura kubijanye n'ibihe bya nyuma bizoshika.
Ni même sur le ciel.
Chanya gutahura ibintu kwijuru.
Vous ne vivrez que au jour le jour.
Uzosanga wabereho ku munsi ku munsi.
Si vous ne comprenez pas.
Nimba utabanje gutahura
que Dieu avait un plan originel et qu'il a toujours le même plan.
Donc,
tout ce que tu fais, tout ce qui concerne le Seigneur et l'homme converge vers ce plan. Chaque jour, chaque seconde, Dieu fait converger les choses vers ce plan. Ce plan, c'est qu'il y ait des créatures qui soient à la fois spirituelles et à la fois naturelles, physiques, qui puissent faire une extension du royaume de Dieu sur la terre. Ça ne change pas. Et nous allons voir que tout va converger vers
cela.
On va étudier ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. On va étudier donc le premier retour de Jésus, puis après le deuxième retour de Jésus. On va étudier le millénium. On va étudier nouveaux cieux et nouvelle terre. Et tout va converger vers ce plan
original.
Ça, c'est quelque chose qui doit être bien compris en vous. Tu ne travailles pas pour des royaumes naturels. Tu peux être employé du gouvernement, tu peux même avoir une grande position dans le gouvernement.
Il faut toujours
que tu penses qu'il y a un autre royaume.
Qui
ne s'arrêtera jamais. C'est le royaume de Dieu.
T'en
fais partie. Il y a plein de choses qui vont se passer dans ta vie. Parce que l'histoire ne s'arrête pas au ciel. Moi, pendant des années, je pensais, bon, on va aller au ciel, gloire à Dieu, amen. Le ciel est un endroit merveilleux, gloire à Dieu, amen. Non, mais ça, c'est un temps. Le ciel est un passage. Le ciel est un passage. La terre est un passage très court. Le ciel sera un passage certainement plus long pour la plupart d'entre nous. Mais
ce
n'est pas la finalité. Il va se passer plein de choses intéressantes. Passionnantes.
Et
c'est pour ça que nous prêchons
Christ.
Parce que s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, nous sommes des gens malheureux. Parce que nous ne serons plus des hommes. Et Dieu nous a créés pour être des hommes. Alors, avant de comprendre que Jésus va revenir une première fois, eh bien, on va découvrir que Jésus va revenir deux fois. Et ça, c'est parfois quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas bien. Mais il y a des événements prophétiques qui vont se déclencher à un certain moment.
Et
on ne sait pas exactement quand. Mais à partir du moment où le premier événement prophétique va se déclencher, tout le reste est très clair dans la parole de Dieu et on sait comment ça va se dérouler.
Il
n'y a qu'une chose qu'on ne sait pas. C'est le début de cet événement prophétique.
Du
premier événement prophétique qui va s'appeler l'enlèvement de l'Église.
Ou
c'est aussi appelé le premier retour de Jésus. Jésus va revenir. Souvent les gens le savent. Ce qu'ils savent moins, c'est que Jésus va revenir deux fois.
Ce
qu'ils savent encore moins, c'est qu'est-ce qu'ils vont vivre. Alors, la Bible va nous montrer qu'il y a deux retours du Seigneur. On va découvrir ça dans 2 Thessaloniciens.
Parce que
là, on va vivre des choses. Que vous soyez au ciel, que vous soyez sur cette terre à ce moment-là, nous allons vivre des choses. Et des choses absolument phénoménales. Des choses extraordinaires. Alors, chapitre 2 de 2 Thessaloniciens va nous montrer qu'il y a deux événements distincts et deux retours de Jésus.
Baratwereka ko hari ibintu bibiri bitandukanye ari byo kuza kugaruka kwa Yesu kubiri.
Verset 1, il est dit, nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement ou la venue ou le retour du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui.
Ngo turabinginga bene data ku murongo wa mbere w'igice cya kabiri kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu.
Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens ni alarmer par quelques entre guillemets inspirations, par quelques paroles ou quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie, on va expliquer ce que c'est, soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, on va expliquer aussi, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre et il faut seulement que celui qui le retient est encore disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors ici, il va y avoir deux choses dont Paul parle. Paul va parler en fait de deux retours. Il va dire, vous savez, il ne faut pas vous inquiéter.
Parce
que lorsque Jésus va paraître et notre réunion avec lui, on va voir que notre réunion avec lui, être réuni avec Jésus, ça fait partie d'un événement qui est clair, qu'on va étudier d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. On verra que ce premier retour de Jésus va concerner l'Église. Une des grandes difficultés quand on étudie la fin des temps, donc les événements prophétiques par lesquels nous passons, ce qui est très difficile à comprendre au début, et si vous n'avez pas cette clé-là, ça sera très difficile d'étudier les textes, c'est que dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, dans les évangiles, le temps ou ce qu'on appelle la dispensation, la saison de l'Église, c'était quelque chose que les prophéties et les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont prophétiser sur le futur, les événements futurs, par exemple comme dans le livre de Daniel, Daniel n'a pas la révélation du temps de la grâce. Paul appellera ça dans Éphésiens la dispensation du mystère, le temps de la grâce, le temps de l'Église dans lequel nous sommes actuellement. Il va appeler ça la dispensation. La dispensation, c'est une période de temps déterminée par Dieu. Où Dieu fait alliance avec un homme ou un peuple jusqu'à ce que certains événements se passent et après il passe à une autre dispensation. Et c'est souvent d'ailleurs l'homme qui arrête la dispensation par sa désobéissance. La plupart du temps c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Dieu avait donné la dispensation de la loi par exemple, et les Israélites qui étaient supposés retenir la connaissance de Dieu, être le peuple qui connaissait la connaissance de Dieu, qui avait la connaissance de Dieu, et qui
étaient
supposés la transmettre jusqu'aux extrémités de la terre,
c'est un
peuple qui a échoué. Donc Dieu a dû amener son fils et passer le bâton, passer le témoin du relais à l'Église. Et la mission de l'Église aujourd'hui, c'est encore d'avoir la connaissance de Dieu et de la transmettre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu a dû se trouver un autre peuple
ariko Imana yabanje kurondera abandi bantu
qui voulait lui obéir.
Bagomba kumwumvira.
Et par exemple, la dispensation de la loi s'est arrêtée.
Uravye nk'igihe cy'ibyagezwe cyahagaze.
Avec l'avenue de la grâce.
Bitanguranye no kuza k'ubuntu.
Une meilleure alliance.
Isezerano
rishasha. Sur de meilleures promesses.
Byiza byubakiye ku byo twemererwa byiza kurusha.
Donc il va y avoir une... il y a la dispensation pardon actuellement de l'église.
Urumva rero muri kino gihe turi mu gihe cy'ubuntu igihe cy'ishengero.
Et il y a un moment.
Habaho rero igihe.
Où nous allons être réunis avec le Seigneur.
Tuzokoranirizwa hamwe nawe umwami wacu.
On va expliquer ce que c'est.
Turaza kuvuga ibyo ari byo.
Ensuite, la Bible nous dit qu'il va y avoir l'apparition d'un impie, d'un homme très méchant.
Bibiliya katugira ngo rero ngo hazobaho ukuboneka k'umuntu mubi k'umunyakibi.
Et qui va s'asseoir sur le temple, dans le temple de Dieu.
Ona ngo zosayicara mu rusengero rw'Imana.
Qui va essayer de prendre la place de Dieu. Sur la terre, bien sûr. Se faire adorer. Il va y avoir un moment d'apostasie. L'apostasie, c'est tout ce qui essaye de, d'aller à l'encontre de la connaissance de Dieu. Tout ce qui essaye d'éradiquer, d'enlever la connaissance de Dieu.
Habeho igihe cy'ukugarariza no kwanka no kumva umenga Imana irashisha bayishira kure cyane.
L'apostasie, c'est ça, ça sera un temps. Où les hommes feront exprès sur toute la terre de, d'essayer de détruire tout ce qui parle de Dieu ou qui parle de connaissance de Dieu.
Ils
persécuteront à mort ceux qui oseront même invoquer le nom du Seigneur.
Et
cette période, nous savons, c'est une période de 7 ans où il va y avoir sur la terre Dieu qui va déverser tout un tas de jugements. Dans cette période, Dieu dira simplement, j'ai donné ma grâce aux hommes. J'ai montré ma grâce aux hommes. Mais maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et Dieu va envoyer ses jugements sur la terre. Et c'est ce que vous voyez dans certains événements qui sont décrits dans l'Apocalypse. C'est là où on parle que Dieu déverse la coupe de sa colère.
Il
y a tout un tas de choses qui vont se passer. Un tiers des hommes vont mourir.
Il y a
plein de jugements que Dieu va envoyer. En disant aux hommes, vous n'avez pas cru que j'étais vraiment Dieu. Attention maintenant. Je vais vous montrer qui je suis.
Et
il y aura une confrontation immense de puissance entre la puissance de Dieu et la puissance de
Satan.
Alors, on parle beaucoup de ces événements. On parle de 666, on parle de l'Antichrist. C'est pas mon sujet. Parce que nous, nous ne serons plus ici. C'est ça l'avantage. Dieu va nous préserver. Et c'est normal. Dieu va nous préserver d'événements, de jugements qu'il va envoyer sur la terre. Parce que s'il envoie les jugements au milieu de son église va être frappée. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5,
2
Corinthiens
5,
j'essaie de vous expliquer des choses parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce genre d'enseignement en général. La Bible nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, en fait, quand il y a une déclaration de guerre entre deux pays, avant que la déclaration de guerre soit officielle, on retire les ambassadeurs.
Amen.
On ne laisse jamais les ambassadeurs au milieu de la guerre, dans un pays. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous avons le message de réconciliation. Dieu va venir enlever son épouse.
Imana isoza gutora umugeni wayo.
S'il ne peut pas laisser son épouse.
Kuko nishobora kureka umugeni wayo.
Au milieu des jugements.
Hagati mu manza.
Parce que nous sommes dans la grâce.
Kuko twe twagiriye ubuntu.
Et ces jugements sont là pour dire aux pécheurs qui ont refusé pour l'instant Christ.
Kandi izo manza zoza ngo zibwire abanyabyaha banse Kristo kugeza aho.
C'est le temps du jugement.
Ngo harageze ko mucibwe imanza.
Alors la Bible nous montre, c'est pas mon sujet donc je vais pas trop passer de temps là-dessus.
Singomba kubitaba ko cyane Bibiliya twereka.
Dans le passage de Thessaloniciens.
Ariko muje twasomye wa Thessalonica.
La Bible nous montre clairement que Jésus va revenir aussi pour détruire par sa bouche l'impie. Et en fait, Paul était en train d'écrire aux Thessaloniciens parce que apparemment, il y avait des gens qui avaient laissé passer des messages pour troubler l'Église.
Rappelez-vous
que les Thessaloniciens, c'était une Église très fragile. Paul, dans la fondation de l'Église de Thessalonique, n'est resté que 3 semaines là-bas. Il a prêché
Christ.
Et en fait, il y a un groupe de gens qui se sont formés, une Église qui est née. Mais cette Église qui est née, était une église de bébés spirituels. D'ailleurs, c'est pour ça que la première et la deuxième aux Thessaloniciens, ce sont des deux épîtres pour des bébés spirituels. On trouve vraiment des enseignements de base dans ces deux épîtres. On
ne
parle pas de dons spirituels. On
ne
parle pas de ce qu'on est en Jésus. On parle vraiment de choses très simples, des bébés spirituels. Mais on parle d'événements aussi prophétiques.
Ce
qui prouve que même les bébés spirituels, les gens qui reçoivent le Seigneur depuis peu de temps devraient connaître. Et là, en fait, ils étaient troublés. Il y avait des gens qui étaient passés dans l'église et qui disaient: attention, Jésus est déjà revenu. Les gars, vous l'avez loupé. Vous êtes arrivés trop tard. Et Paul est obligé de leur dire: non, attention. D'abord, il faut que vous compreniez plusieurs choses. Il faut comprendre que d'abord, il y a un premier retour de Jésus. On sera réunis avec lui. Puis après, il va se passer de très mauvais événements sur la terre. Parce qu'on leur avait dit: ah, l'empereur qui est là, il nous persécute. On vit des moments difficiles, l'empereur romain qui tenait toutes ces nations. Donc c'est certainement ça dont ces gens-là nous ont parlé. Paul leur dit: non, doucement, remettons les choses en place. Jésus va revenir, c'est vrai. On sera réunis avec lui. Mais aussi, c'est sûr, il va y avoir effectivement cette montée de cet antichrist. Même s'il ne l'aime pas tout à fait comme cela ici, il explique cet homme impie qui rentre dans la description de d'autres passages qui montrent que c'est l'antichrist. Et après, le Seigneur va revenir encore. Il va détruire cet homme. Il va détruire le pouvoir mondial de cet homme. Alors, la première fois où Jésus revient, d'abord il va revenir pour son église. On verra qu'il va apparaître dans le ciel. On va découvrir que seulement nous, les saints, nous allons entendre la voix du Seigneur. On verra aussi que ça va être la résurrection, la première résurrection. Parce qu'il y a deux résurrections. Et en fait, nous découvrirons plus précisément que c'est la première phase de la première résurrection. Et puis, on va découvrir qu'à partir de ce moment-là, nous, on va être au ciel.
Et
on va voir comment ça va se passer. Sur la terre, il y aura des jugements.
Et
il y aura les 7 ans de tribulation sur la terre. Qu'on étudiera très peu parce que ce n'est pas mon sujet.
Ce
qui m'intéresse ici, c'est la consommation du salut, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous concerne uniquement nous, les croyants nés de nouveau. Ensuite, au bout de ces 7 ans, Jésus va revenir avec nous. Et là, il va toucher la terre.
Hamazoza agendera isi.
Tous le verront.
Bose bazomubona.
Ce sera la fin de la tribulation.
Aho azoba ari impera iyo myaka indwi hamwa.
On verra brièvement la condition de la terre à cette époque-là.
Turaza kuraba ingene bizoba bimeze kwisi muri ico gihe.
Israël va se convertir en masse.
Israël bazokwihana ari benshi ico gihe.
Et ça sera le début d'un autre événement.
Maze ibi ntango y'ikindi kintu gishasha.
Que nous allons vivre.
Nacho tuzokibamwo kandi.
Qui va s'appeler le millénium.
Ico bita ikimpumbi.
Mais c'est pas encore la fin de tout.
Ariko siho biherera.
Nous allons découvrir qu'il y aura encore un autre événement après.
À
la fin du millénium, c'est là seulement où Christ va recréer la surface de la terre quand il va être parlé d'une nouvelle terre. Nous étudierons ce que ça veut dire en grec réellement.
Parce que
beaucoup de gens ont pensé que Dieu va tout détruire et tout recréer, c'est faux. Dieu ne détruira pas sa propriété. Il ne détruira pas toute sa propriété en disant, voilà, je détruis toute la terre. Si par exemple, tu as une maison sur un joli terrain
et
ta maison est en ruine, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu vas détruire le terrain avec la maison? Non, si la maison ne te plaît pas, tu vas enlever la maison. Tu vas enlever toute la surface, tu vas toute la terre au-dessus du terrain.
Et
tu vas pas creuser 1000 km en disant je détruis tout.
En
profondeur. Non, tu vas refaire la surface. Tu vas te refaire un très beau jardin.
Et tu vas te
construire une très belle maison. C'est ce que Dieu va faire en quelque sorte. Alors, étudions maintenant cet événement particulier qui concerne le premier retour de Jésus.
Il
s'appelle l'enlèvement. Alors, pourquoi l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement? Que va-t-il se passer à l'enlèvement? D'abord, la raison d'être de l'enlèvement, c'est que Dieu veut préserver son Église des jugements. De la tribulation. Parce qu'il nous aime, il ne nous veut pas de mal. Donc tu seras épargné de cette tribulation. Dieu va t'épargner tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Qu'est-ce que la Bible dit?
1
Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible va nous révéler un certain nombre de choses. Et en fait, ce passage, c'était un passage de consolation au travers duquel Paul va enseigner sur le premier retour de Jésus. Il va dire, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que l'ignorance ouvre la porte à beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Ça peut nous ouvrir à beaucoup de trucs qui sont diaboliques. Ça peut nous donner parfois d'être découragés d'abandonner le Seigneur. Ça peut nous amener dans des fausses routes et à tourner en rond toute notre vie et à être stérile. Ça peut même nous amener parfois à la destruction. Parce que l'ennemi profite de l'ignorance. Satan a deux armes contre les chrétiens. C'est l'ignorance et la désobéissance. Ceux qui sont ignorants et ceux qui sont désobéissants
ouvrent
toujours des portes à l'ennemi. Ils donnent toujours un terrain sur lequel Satan peut travailler. Donc il dit que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Tiens, on retrouve ce mot espérance. Donc ceux qui dorment, bien sûr, ce sont ceux qui sont morts en
Christ.
Et là, il parle d'espérance. Nous avons une espérance. Une espérance extraordinaire. Un voyage extraordinaire. Et il dit en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui sont endormis ou ceux qui sont morts en Christ.
Uko twizera ko Yesu yapfuye akazuka ku mirongo 14 abariko twizera yuko abasinzire muri Yesu Imana izobazanana nawe.
Il dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement ou le premier retour si vous préférez du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, tiens un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Wiki nico tubabwira ku mirongo 15 ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya canke abapfuye kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo ko mu marayika mukuru mu marayika n'inzamba y'Imana maze abapfire muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami nuko mwiruranisha ayo majambo.
Alors ce qu'on va appeler l'enlèvement de l'église qui va concerner le premier retour du Seigneur.
Et bien batubwira ngo byo kuduzwa kugira ngo duhure canke tukuza kwa mbere k'umwami Yesu
va être marqué par trois événements particuliers.
Bizoba bifatanye n'ibintu bitatu bidasanzwe.
Le premier,
ikintu cya mbere,
c'est la première résurrection.
N'ukuzuka kwa mbere.
Le deuxième,
icya kabiri,
c'est la transformation et l'enlèvement, c'est-à-dire le fait qu'on soit aspiré dans les airs.
N'uguhindugwa canke ukuduzwa kwa abantu bazoba bakire bazima bagahindugirwa mu kirere.
Et en même temps notre corps sera instantanément transformé par la puissance de Dieu.
Imibiri y'abazoba bakire igaha ku isi igahindugwa muri ako kanya nyine mu bushobozi bw'Imana.
Le troisième,
hamikintu cya gatatu,
c'est qu'on sera réuni avec le Seigneur dans les airs.
Ngo tuzokoranizwa mu kirere n'umwami.
Et que nous allons retourner au troisième ciel.
Hama tuce dusubirana nawe mu ijuru rya gatatu.
Retourner pour ceux qui sont déjà morts en Christ.
Urumva n'ugusubirayo ku bazoba bamaze gupfa.
Qui étaient déjà au ciel, qui profitaient du ciel.
Bazoba bari mu ijuru baruhukiyeyo.
Nous qui sommes vivants.
Hamwe n'abazoba bakire
ari bazima.
Bazokwegwa
gutya. Et d'un seul coup transformé.
Hama mu kanya gato bahindugwe.
Avec le Seigneur, nous serons réunis dans les airs, avec les autres.
Bose, abavuyeyo n'abaduze duhure mu kirere.
Avec ceux qui seront ressuscités.
N'umwami abazutse abari ngaha bose duhure.
Nous irons au troisième ciel.
Hama tuce dutaha mu ijuru rya gatatu.
Donc que nous soyons déjà morts en Christ, c'est-à-dire au troisième ciel.
Urumva abazoba bari barapfuye bari mu ijuru rya gatatu.
Que nous soyons vivants en train de marcher sur cette terre.
Abazoba ari bazima bagendagenda kuri inosi.
Cet événement est pour tous ceux qui sont nés de nouveau.
Icyo kintu cy'abantu bose bamaze kuvuka ubwa kabiri.
Le premier retour de Jésus.
Ukugaruka kwa mbere kwa Yesu.
Tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont déjà morts et au troisième ciel vivent la résurrection. Ceux qui sont vivants vivent la, je dirais, l'aspiration et la transformation. Et tous seront réunis auprès du Seigneur dans les airs. Et tous iront à ce moment-là, retour au troisième ciel, pour être protégés pendant sept ans. Et c'est là, pendant ces sept ans, où nous, qui sommes au troisième ciel, avec un corps soit ressuscité, soit transformé, c'est là où on recevra nos récompenses. Parce que nous allons découvrir une chose. Le salut est gratuit. Mais ce que tu as fait de la gestion de ta vie sur la terre par rapport à ce que le Seigneur t'a demandé, ce sera là où tu auras une récompense. Et on va voir que la Bible nous parle de passer devant le tribunal de
Christ.
Et Et ça, ça sera ce que nous allons étudier après, parce que nous allons tous aussi passer devant le tribunal de
Christ.
Donc il y a déjà un certain nombre d'événements que vous commencez à comprendre et à connaître. Mais là, le premier, eh bien, c'est ce deuxième retour de Jésus, nous allons subir quelque chose. Le premier retour, excusez-moi, nous allons subir quelque chose. Alors, on va maintenant regarder un petit peu cette première partie de ce qui va se passer, c'est-à-dire l'aspect de la résurrection d'entre les morts. Parce que quand on lit bien notre texte de
Thessaloniciens,
il est bien dit
que
les morts en Christ vont ressusciter premièrement, fin du verset
16.
Ensuite, il est bien dit, à la suite de la résurrection d'entre les morts, nous les vivants, donc ça concerne deux types de personnes. Les premiers qui vont vivre quelque chose, c'est ceux qui sont au troisième ciel, vont redescendre. Leur esprit et leur âme vont redescendre sur l'ordre de Dieu pour ressusciter d'entre les morts. Mais nous, ensuite, nous les vivants,
nous
serons restés, c'est-à-dire on est encore vivants dans un corps qui biologiquement n'est pas encore mort. Dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
il
dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je
vous
rappelle que dans 2 Thessaloniciens, on parlait de notre réunion avec le Seigneur. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit Paul à propos de la résurrection. Regardez 1 Corinthiens 15. À propos de la première résurrection, 1 Corinthiens 15, et quand on met 1 Thessaloniciens 4 en parallèle avec 1 Corinthiens
15,
à partir du verset 50, on voit qu'on commence à parler des mêmes choses, mais chaque passage nous donne une lumière supplémentaire. Verset 50, Paul dit, en Corinthiens 15, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire notre corps corruptible, ne peut hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alors, quand on parle d'incorruptibilité ou de corps incorruptible, ça signifie deux choses. La première, l'incorruptibilité, c'est quelque chose qui ne peut pas connaître le péché. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et l'incorruptibilité, ça implique aussi une autre chose. C'est quelque chose qui ne peut pas mourir. C'est-à-dire qui est immortel. Je ne parle pas de quelque chose qui n'est pas mortel, je parle de quelque chose qui est immortel.
C'est
la différence. Quelle est la différence entre les deux? Adam avait un corps non mortel. C'est-à-dire normalement un corps qui n'était pas sujet à la mort physique. Mais comme il a péché, la mort spirituelle qui est entrée en lui a amené un processus de mort physique.
Donc
son corps est devenu mortel. Alors qu'au départ, il était non mortel. Alors, qu'est-ce qu'un corps immortel? Un corps immortel, c'est quelque chose, c'est un corps qui ne pourra jamais être atteint par la mort. Donc quand on parle de revêtir l'incorruptibilité, ça veut dire que notre corps ne pourra plus pécher et que La mort ne pourra jamais le toucher pour l'éternité. En gros, ça veut dire que l'histoire du jardin d'Éden ne pourra plus se reproduire avec nous. Ça ne se reproduira plus avec nous. Parce que si tout devait recommencer, là nous allons démissionner. Mais c'est pour ça, Dieu a prévu quelque chose. Mais Dieu nous dit ici dans sa parole quelque chose de clair. Il nous dit le fait que notre corps ait été corruptible, il ne peut pas hériter de l'incorruptibilité du royaume. Le royaume futur, quand il sera manifesté, il
n'y
aura plus de péché.
Possible.
Et le mot mort n'existera pas. Rien ne sera touché par la mort. Quand nous serons avec lui pour l'éternité, avec le monde spirituel et le monde matériel parfaitement réconciliés, comme la Bible dit que nous serons, Dieu sera tout en tous, il n'y aura plus de péché possible. Plus une trace de mort où que ce soit. Pour nous, c'est difficile à imaginer. Parce que nous sommes toujours sujets à, sans même nous en rendre compte. Dans ce monde, on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vent dans la ville, vous avez remarqué. On a pris plein de poussière dans la figure.
Alors,
la poussière nous a gênés, mais on ne réalise pas que c'est la conséquence du péché. On
n'y
fait même pas attention. Que ce soit dans le jardin d'Éden, que ce soit dans le ciel, il n'y a pas de poussière.
Ah,
mesdames, il faut dire amen. Ça n'existe pas. La poussière est la conséquence de la destruction. Ce sont des petits, c'est de la matière qui s'est corrompue. C'est pour ça que Dieu dira à Adam, tu n'es que poussière et tu ne retourneras que la poussière. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Dieu ne lui aurait jamais dit ça dans sa condition d'être créé à son image. Donc, l'incorruptibilité, c'est pour la manifestation du royaume. Entre-temps, il y a un passage obligé. Nous sommes dans le passage obligé. Avant d'arriver vers la gloire. On parle de choses prophétiques qui vont nous arriver. Donc Paul nous fait découvrir, nous révèle des choses. Voici verset 51. Je vous dis un mystère. Un mystère, c'est une connaissance divine que Dieu révèle quand il veut la révéler. Je vais vous dire une chose, même les prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas ce mystère. Tu as la révélation du mystère dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu a bien voulu nous révéler cette connaissance. C'est Dieu qui nous a choisis pour nous dire voilà ce qui va se passer. Au travers de Paul qui a reçu cette révélation du mystère, Paul dit, nous ne mourrons pas tous.
Waouh,
nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
Vous
voyez, encore Paul là parle de deux catégories de personnes. Des gens qui sont morts et des gens qui sont vivants dans leur corps. Les gens qui sont morts vont ressusciter et nous serons changés. Et ça va se passer, la Bible nous dit, en un clin d'œil. Et le mot grec,
Ikigiriki bakoresha
c'est qui a été utilisé pour ce petit laps de temps, c'est le mot grec atomos.
Nakajambo bita atomos mu kigiriki bakoresheje mu kuvuga ngo
gukubita ingohe. Atom.
Niko katanze atom.
C'est-à-dire c'est la plus petite partie de la matière.
Mwangu niko kanu gatonya mu bijanye n'ibikoze ibintu niko kanu kanyuma gatoyi.
On parle d'atome de fer, c'est la plus petite partie que tu trouveras.
Bavuze nk'atome y'icuma niko kanu kanyuma gatoyi kucuma.
L'idée c'est que ça va se passer sans que personne s'en aperçoive.
Mwande majambo ngo ivyo bintu bizoba nibabone ningene byabaye.
La résurrection d'entre les morts.
Ukuzuka kw'abapfuye.
Ça va être un événement. Ça sera bien plus grand que la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde. Parce que là, tu es obligé d'attendre 90 minutes pour savoir le résultat. Sauf si à prolongation, ça sera
plus.
Là, la Bible est claire. Ça va se passer. Piouf, comme ça. Et les gens n'auront rien le temps d'empêcher. D'un seul coup, ça va se faire. Imaginez-vous. On estime, c'est une estimation. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais on ira voir les chiffres de Dieu pour 2010 et vous verrez que j'avais raison. On estime à peu près.
Il y aurait
500 millions de personnes actuellement au ciel. Imaginez-vous sur cette terre.
500
millions de tombes qui s'ouvrent en même temps. Regardez Mbanda, notre cimetière là-bas. D'un seul coup, vous voyez tout le monde qui... Et une maison qui s'ouvre en deux parce qu'il y avait quelqu'un en dessous. Partout, on ne sait pas. Les pêcheurs seront surpris ce jour-là, je vous garantis. Là, c'est toutes les télévisions du monde qui vont regarder ce qui se passe. Sans dire, la France et le Ghana ont perdu.
Batavuga ngo Faransa ngo bwavuyemo ngo batukanye ngo gana nayo ngo yatsinzwe.
Oui, là on fait l'événement national et international.
Cyangwa ngo uyu munsi ngo amakuru ngo tugira tuvuge impuzamahanga n'ibiki.
Non, là les gens vont être affolés de partout.
Uwo munsi bose bazoba bataye
mu kwe. De partout ça va sortir.
Nibi nuzoba bicomoka biva hantu hose.
Plein de la mer. Des cimetières. Des maisons, partout. D'un seul coup, les esprits et les âmes de ceux qui sont dans le ciel vont descendre, et ça, c'est pas visible. Par contre, ce qui va être visible, c'est tout ce qui va être une marque. Et la Bible nous dit, verset 54, et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton
aiguillon?
Alors, la Bible va nous montrer que ce corps, en fait, le corps que tu vas laisser ici.
Si
tu meurs avant l'enlèvement,
il
y a de la poussière. Ton corps va devenir poussière. Dieu va se servir de cette semence pour recréer un corps qui sera incorruptible, qui pourra venir dans sa présence pour l'éternité. La semaine prochaine, on verra une chose. On verra comment nous allons, si nous les vivons, nous serons transformés et aspirés avec le plus gros aspirateur que vous n'avez jamais vu de
l'éternité.
Et on sera avec lui dans les airs. Et on fera Bye bye les pécheurs. Dépêchez-vous de vous convertir avant les jugements. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On verra la suite la semaine prochaine.